Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Comment Saint Padre Pio, prêtre du petit village de San Giovanni Rotondo au sud de l'Italie, peut-il avoir un rayonnement dans le monde entier ? C'est la question que nous posons ce matin dans Vivante Église, puisque de nombreux groupes de prières dans notre région s'inspirent de la spiritualité du Saint Prêtre. Saint Padre Pio, un saint qui rayonne. Et pour en témoigner, nous sommes avec Gino Testa. Il donne des conférences dans toute la France et était à l'église Saint-Jacques de Montauban le 23 septembre. À mes côtés, Roberto Reinhardt. Bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie du groupe de prière Padre Pio à la chapelle Saint-Jean-Baptiste à Toulouse. Et vous organisez le 4 octobre à 14h une conférence à Toulouse sur le saint de San Giovanni Rotondo. Enfin, avec nous par téléphone depuis Paris, François Brunato. Bonjour.
Bonjour.
Ça marche.
Bonjour à tous.
Merci la technique. Votre père a été le sacristain de Padre Pio et son grand défenseur. Vous avez publié le manuscrit que votre père a écrit en 1955 sous le titre « Padre Pio, mon père spirituel ». Et vous nous direz comment, à votre tour, Padre Pio vous guide.
Bien volontiers en tout cas, et moi je dis que la technique est fantastique et merci pour votre invitation.
Avec joie. Quelques repères concernant Padre Pio. Il a vécu entre 1887 et 1968. Le pape Jean-Paul II l'a canonisé le 16 juin 2002. Je vous propose de débuter directement cette émission par l'interview de Gino Testa. Il était donc de passage dans notre région pour une conférence à Montauban. Gino Testa, vous étiez de passage à Montauban le 23 septembre pour donner une conférence sur Saint Padre Pio à l'église Saint-Jacques. Comment l'avez-vous découvert, ce saint de San Giovanni Rotondo ?
Alors, je fais partie de ces gens qui se sont trouvés convertis en deux secondes. Un jour, en allant à San Giovanni Rotondo, je pense à rien et deux secondes après, tout a été fait, voilà.
Vous avez été retourné ?
Ah, complètement.
Qu'est-ce qui vous a touché particulièrement chez Padre Pio ?
Alors, ce qui me touche chez Padre Pio, c'est son humanité d'abord, son obéissance à l'Église. On sait qu'il a souffert, mais il avait dit à Padre Pellegrino, et ça montre bien combien il est obéissant, il avait dit « Si je n'avais pas eu sur les épaules la Sainte Église, avec son amour et surtout avec sa rigueur, je me serais peut-être noyé dans un océan de doutes et d'incertitudes. Ou bien je serais devenu indifférent face au problème du salut des âmes. La Sainte Église a été pour moi un refuge. » Donc cette obéissance à l'Église qui est fondamentale chez Padre Pio me touche. Sa dévotion à la Vierge me touche. Alors quelques phrases de Padre Pio hein, par rapport à la Vierge. Le plus grand signe d'amour que vous pourrez me donner sera de savoir que vous remerciez pour moi la Vierge Marie. C'est ce qu'il avait dit à son directeur spirituel dans les années 1910. Je voudrais inviter toutes les créatures du monde à aimer Jésus, à aimer Marie. Et puis une dernière, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Que Marie soit l'unique raison de ton existence, celle qui te guide au port du salut éternel, qu'elle soit pour toi un modèle de douceur et celle qui t'inspire à la sainte humilité. Et ce qui me touche chez Padre Pio, enfin, il a dit « Je suis dévoré par l'amour de Dieu et par l'amour des hommes. » Et il aime les hommes, il aime les âmes, Padre Pio. Bien sûr, il y a tous les faits extraordinaires, mais ce qui me touche, simplement un exemple, un jour, il se confesse auprès de Padre Pellegrino, et après la confession, Padre Pellegrino voit couler des larmes sur le visage de Padre Pio. Il lui dit « Je ne comprends pas, mon père, vous ne m'avez rien dit, qui justifie ça ?» Et Padre Pio fait cette réponse, « Mon fils, le péché, c'est la trahison de l'amour. » Donc ça, c'est vraiment des propos forts de Padre Pio. Et une dernière chose, pour montrer combien il aime les âmes, dans les dernières années de sa vie, Padre Pio avait plus de mal à se déplacer, donc on le véhiculait sur une petite chaise roulante. Et un jour, en passant dans le couvent, en voyant l'hôpital, qui est très beau l'hôpital, hein, on sait ce que c'est, il a fait cette remarque, qui est imagé, mais qui montre combien il aime les âmes. Si ça pouvait sauver une seule âme, j'y mettrais le feu. Et Padre Pio s'est offert dès 1910 pour le salut des âmes et des non-croyants, et pour les âmes du purgatoire. Mmh. Voilà.
Merci pour ce résumé, hein, parce que c'est vrai que en 3 minutes résumé, cette spiritualité, cette foi de Padre Pio, c'est un beau défi. J'ai noté ça. Comment il vous accompagne aujourd'hui dans votre vie de foi?
On dit que les saints le choisissent, mais je crois que la Vierge m'a mis des saints sur ma route. Donc il y a Padre Pio, bien sûr, il y a Bakita, il y a Padre Giacomo, voilà les principaux. Sainte Bernadette, Saint Joseph Labre, mais Padre Pio.
Lui, il est dans les premiers.
Il touche beaucoup avec Bakita, oui. Et Padre Giacomo.
Et vous faites partie, vous animez un groupe Padre Pio, c'est un groupe de prière à Saint-Nicolas-des-Champs à Paris. Ces rendez-vous de prière vous apportent et comment vous les vivez?
Ça fait déjà près de 15 ans qu'on le fait. Hein. C'est une réunion par mois, avec toujours une messe qui est le moment central dans la vie d'un chrétien, et ensuite un moment Padre Pio où on prie le chapelet et il y a toujours une explication d'une demi-heure sur des points particuliers de la spiritualité ou la vie de Padre Pio.
Vous avez été responsable, un conseiller pendant 5 ans du conseil général des groupes de Padre Pio et vous avez avec vous la mitaine, une des mitaines de Padre Pio qu'il avait lui-même à la main, puisqu'on sait que ces mitaines étaient souillées par le sang, puisque le Padre Pio avait des stigmates. Comment avez-vous recueilli cette mitaine?
Donc c'est une mitaine que Padre Pio a portée. Et, il y a un peu plus de 10 ans, il y a une jeune femme qui était de Saint-Giovanni-Rotondo à Paris. Elle était venue à nos moments de prière, elle avait vu qu'il y avait du monde. À l'époque, il y avait beaucoup plus de monde que maintenant. Mais c'est bon signe, parce qu'il y a beaucoup plus de groupes de prière dans les églises maintenant. Et un jour, j'étais à Saint-Giovanni-Rotondo, elle en avait parlé au Père Gardien. Et la veille de mon départ, il m'a confié cette mitaine que j'ai amenée en beaucoup d'endroits, en Guyane, Guadeloupe, Russie, dans des prisons, des séminaires, des couvents, et puis des villes. Beaucoup de villes de France, voilà. Et c'est dans ce cadre-là que je suis venu la semaine hier, donc, à Montauban.
Et oui, et cette mitaine, vous avez conscience que vous portez la relique d'un saint?
Oui, c'est une relique, c'est pas un gris-gris. À Saint-Nicolas-des-Champs, où on a notre groupe, je l'amène 2 fois par an, pas plus, pour pas que les gens prennent ça comme un gris-gris. Si je vais ailleurs, bien sûr, je l'amène. Mais il s'est passé des choses devant cette mitaine, certaines fois, oui.
Par exemple, vous auriez quelques Fioretti?
Oh ben, une fois, j'avais amené au à Notre-Dame-du-Lot, où il y avait le festival Marial, et il y avait un moment autour de Padre Pio, donc la relique était mise au pied de l'autel, et il y a une dame qui avait vraiment du mal à marcher, et elle s'est sentie appelée pour y aller. En arrivant dans la mitaine, elle a senti une chaleur. Et ensuite, elle arrivait à marcher, à se mettre à marcher, elle marchait, mais à se mettre à genoux. Et ça a duré pendant 10 années, voilà. Je cite ça, puis il y a beaucoup de témoignages qui se font.
Beaucoup de témoignages qui montrent que Saint Padre Pio, est à l'œuvre aujourd'hui.
Sûrement plus maintenant qu'il est au ciel, que quand il était sur terre. Je pense que Padre Guglielmo, qui a 95 ans, qui est un de ses plus proches fils spirituels, dit, et je suis convaincu que les images de Padre Pio, parce qu'on en a distribué des centaines de milliers, je dirais, depuis le temps, hein, peuvent faire de l'effet chez certains, mais des années, 10, 15 ans après.
Oui,
et ça, certains
c'est
me l'ont dit.
Le temps de Dieu.
Oui. Il y a une grande dévotion à Padre Pio dans le monde entier. Hein. Et lorsque le cardinal Bertone était venu à San Giovanni Rotondo, il y a une 10 années, 2 jours après, dans l'Osservatore Romano, il y avait cette remarque, Padre Pio, guide spirituel du laïca.
Guide spirituel du laïca.
Du laïca, oui.
D'accord, donc un saint pour tous les laïcs du
oui.
monde.
Oui. Il y a eu cette phrase par rapport au laïca, mais lorsque le pape Benoît XVI avait lancé l'année sacerdotale, où il avait pris le curé d'Ars comme saint patron pour les prêtres, 2 jours après, il était venu à San Giovanni Rotondo pour confier cette année sacerdotale à la protection de la Vierge et à Marie. il avait eu cette phrase qui pour moi est la plus belle définition de ce qu'est Padre Pio. Je vais vous la lire. La première préoccupation de Padre Pio a été que les personnes retournent à Dieu, qu'elles puissent expérimenter sa miséricorde et, intérieurement renouvelées, qu'elles redécouvrent la beauté et la joie d'être chrétien, de vivre en communion avec Jésus, d'appartenir à son Église et de pratiquer l'Évangile.
Tout est dit. Merci beaucoup, Gino Testa.
Merci.
Voilà, beaucoup de choses ont été dites dans cette interview sur Padre Pio, son obéissance à l'Église, sa dévotion à la Vierge Marie, son amour des âmes. Pour vous, François Brunato, qui est ce saint prêtre ?
À dire avec beaucoup de respect quand même que c'est un peu comme une personne de la famille.
Ah oui.
Parce qu'il y a un lien très particulier, bon, on l'abordera peut-être tout à l'heure, entre mon père et Padre Pio. Et donc, j'ai vécu étant enfant avec un grand portrait de Padre Pio au-dessus de mon lit. Mais c'est pour moi un peu comme un grand-père qui était au-dessus de mon lit. Bon, à côté d'un crucifix quand même, mais il y avait le grand portrait de Padre Pio. Donc, la relation, mais bon, cette relation... Gino Testa a dit qu'on pouvait confier une image et qu'il fallait peut-être un certain temps oui. avant d'approcher Padre Pio. Je pense que moi, il a fallu que j'attende 45 ans pour venir le voir d'un peu plus près. Donc, oui, le temps fait son œuvre.
Le temps fait son œuvre, oui. Pour vous, Roberto Reinhardt, qu'est-ce qui vous touche chez Padre Pio ?
Padre Pio, c'est une puissance thaumaturge. Je pense pouvoir dire que c'est un des rares saints ou saintes qui cumulait énormément de charismes et de dons spirituels. Il y avait le don de la bilocation, il scrutait les âmes. Cette puissance, comme l'a dit M. Gino Testa, elle était au service des âmes, du salut des âmes, que ce soit les âmes des vivants, mais aussi de ceux qui étaient retournés vers le Père.
Les âmes du purgatoire, notamment.
Tout à fait. Et donc, cette puissance thaumaturge extraordinaire, au service des âmes et obéissante jusqu'au bout, à l'Église, et aussi, on peut le dire, aux injonctions qui lui sont venues de l'échelon ecclésiastique supérieur, quand Padre Pio, à un moment donné, a été persécuté, puisqu'on peut le dire, hein, il y a eu un décret du Saint-Office en 1923 qui lui interdisait de célébrer la messe en public et de confesser. Et il a été obéissant jusqu'au bout. Et souvent, on obéit souvent par contrainte, par nécessité, mais lui, il obéissait par amour, Padre Pio. En même temps, quelque part, je vais utiliser des guillemets pour le traduire, la simplicité de son programme, même si c'était une âme extraordinaire et solaire, à quelqu'un qui lui répondait « Mais comment se fait-il, Padre Pio ? Comment vous faites pour être ce que vous êtes ?» Je crois que c'était Jean de Robert qui lui avait posé la question, qui était aussi un de ses fils spirituels. Padre Pio avait dit « Vivre en présence de Dieu tout le temps. Fais de ta prière une conversation avec Dieu. Il deviendra quelqu'un de vivant pour toi. Dis-toi bien que quelles que soient les difficultés qui arrivent dans ta vie, aie confiance parce que c'est toujours Dieu qui tient les ficelles. » Et Jean de Robert lui avait posé cette question « Mais c'est pas un peu simpliste comme programme, Padre ?» Et Padre Pio lui avait répondu « Figliole. Crois-tu que l'Évangile ait été écrit pour les gens compliqués ?» Donc il y avait cette puissance, cette obéissance, cette humilité au service, au salut des âmes. C'était le médecin des âmes, hein, Padre Pio. Et en même temps, je crois qu'au-delà de ces charismes et ces multiples dons surnaturels, il fallait voir le message qui était porté par Padre Pio. Il fallait comprendre, selon lui, qu'à côté du péché, il devait avoir une place pour la réparation et la pénitence. Et Jean de Robert avait aussi bien résumé les deux notions de péché et de réparation. Et il avait dit, le péché, c'est un plaisir défendu, et la réparation, c'est l'inverse. C'est une équation, la réparation est égale une souffrance consentie accepté.
Oui,
tout à fait. Et dans le cas de l'offense à Dieu, plus la personne a un rang élevé et plus l'offense a un niveau de gravité. Et plus la réparation doit être à la hauteur. Dans le cas de l'offense faite à Dieu, le niveau de gravité est infini. Donc seule une personne infinie peut réparer, d'où l'incarnation. Et c'est ce qu'a essayé d'expliquer Padre Pio et qu'il a incarné puisqu'il a porté les stigmates pendant une cinquantaine d'années.
Oui, c'est ça. François Brunato, vous nous expliquerez dans la deuxième partie de l'émission effectivement quel a été le lien entre votre père et Padre Pio. Mais pour vous, aujourd'hui, en 2025, Padre Pio, vous dites que voilà, il a mis du temps, ou en tout cas vous avez peut-être mis du temps à le choisir. Quelle est la proximité que vous avez avec ce saint ?
Ah bah pour moi, il a retourné toute ma vie, donc à partir d'une première visite. Mais bon, je suis pas un modèle dans le genre, parce que c'est souvent quand on va le rencontrer, il y a cet effet où il va, c'est le mot, impacter nos âmes, mais transformer nos âmes. Ça veut dire que il y a le avant, il y a le après. Et je pense que l'image qui me vient, c'est que cette petite flamme de foi qu'on peut avoir en soi, alors peut-être minuscule, mais il a l'effet du gaz sur la flamme. Donc je pense qu'il arrive à faire. Pour moi, c'est un saint qui est extraordinaire parce que s'approcher de Dieu, il est quand même loin. Hein, il est loin. Il est proche, mais on le voit quand même loin. Il est Dieu. Donc l'approcher, ça peut être aussi compliqué. Et je pense que Padre Pio, c'est ça, avec tout le respect que je lui dois, bien sûr, je dirais, c'est ce petit tabouret qui va nous permettre d'accéder au cœur de la Vierge Marie et derrière le cœur de la Vierge Marie, d'aller jusqu'à son Fils. Et je pense que, voilà, le résumé que je ferai de Padre Pio, c'est ça. Et pour moi, aujourd'hui, on est dans une nébuleuse, on est dans quelque chose, le monde est noir partout. On a des avis sur tout et des contradictions sur tout. Et je pense qu'aujourd'hui, on cherche le chemin. Alors même si le Christ a dit « je suis le chemin, la vérité et la vie », le Padre Pio peut nous aider justement, et pour moi, il m'a aidé déjà, et il continue à le faire, de pouvoir, avec des choses, comme on le disait à l'instant, c'est avec beaucoup de simplicité, mais c'est une simplicité de l'amour, cette simplicité du cœur, de simplement ne pas nous amener, mais il a quand même de beaux modèles avec le Christ et la Vierge Marie. Oui, ça veut dire vrai. Que c'est toujours beaucoup de douceur, beaucoup de délicatesse. C'est-à-dire que si on suit Padre Pio, c'est avec cette délicatesse où il va nous faire monter et il va nous faire comprendre les choses. Il va nous dire, mais il va aussi être le Père. Ça veut dire que quelque part, il va nous donner aussi de dire, non, ça c'est la ligne, là c'est la ligne rouge ou la ligne blanche, comme on veut. Ça c'est la ligne qu'on franchit pas. C'est-à-dire, voilà le chemin qu'il convient de prendre. Roberto parlait de la pénitence tout à l'heure, et il dit ce chemin, il faut savoir le respecter. Le chemin, il est aussi pas simplement pour le chemin qui nous attend sur la terre, mais le chemin qui mène au ciel. C'est pour ça qu'on parlait des âmes du purgatoire, ça veut dire qu'il nous rappelle que notre vie sur terre, elle est provisoire, elle est un temps de préparation justement pour quelque chose qui est qui n'a pas de fin. Donc, et je pense que c'est par ces mots d'une extrême délicatesse, il nous amène vers cette vérité qu'on ne doit pas oublier. Et voilà, pour moi, le Padre Pio aujourd'hui, c'est vraiment ce signe. Et puis, Gino Testa parlait tout à l'heure de modèles pour les laïcs en reprenant des mots du pape. Des laïcs, oui, mais combien de prêtres aussi sont venus auprès du Padre Pio parce que eux aussi cherchaient aussi hein, parce qu'on est tous. On est tous en train de chercher parce que Dieu, on n'est pas nombreux à l'avoir vu. Donc, on le cherche et on cherche cette vérité de voir le Père. Bon, il faudra attendre de passer au ciel pour ça. Mais donc, dans cette démarche-là, je pense que tous, même les prêtres, nous rappellent, parce que on parlait de la pénitence, mais que dire aussi de la célébration de la messe. Ça veut dire qu'ils nous rappellent. Ce qu'est la messe, c'est-à-dire que si on a pu l'oublier, et ce que c'est que le sacrifice de la messe. Ça veut dire que ce n'est pas simplement une rencontre très, très aimable,
ou
c'est
un
sacrifice.
Repas, un simple repas. Que, ouais.
Voilà, c'est-à-dire que pour moi, il rappelle que le Christ, il a été en croix pour nous sauver, donc c'est pas, et ce qui se renouvelle sur l'autel, c'est ce sacrifice non sanglant, mais que lui portait dans ses stigmates.
Voilà ce que Padre
donc,
Pio a vécu.
Voilà, en quelques mots, et je voudrais ajouter un mot aujourd'hui, surtout de ne pas l'oublier, parce que aujourd'hui c'est la fête de l'archange Saint-Michel.
Exactement.
Il se trouve que l'archange Saint-Michel a beaucoup compté aussi dans la vie de Padre Pio, et il se trouve que Monte Sant'Angelo se trouve finalement cette basilique de Saint-Michel Archange, qui est la première de Saint-Michel Archange, est à moins d'une trentaine de kilomètres de San Giovanni Rotondo.
En tout cas, on retient effectivement cette figure de Padre Pio comme un guide, comme un tabouret, comme vous avez dit François Brunato. Je vous propose déjà de marquer une pause musicale et nous nous retrouvons juste après. Nous écoutons l'Adagio du concerto pour clarinette en A majeur de Mozart.
Église, Isabelle Duché.
Pourquoi Saint Padre Pio touche-t-il les cœurs? Nous en parlons avec Véronique Auguste, Roberto Reinhardt, François Brunato et Gino Testa. Padre Pio était un homme de prière. Il confiait « Je ne suis qu'un pauvre frère qui prie ». Il était aussi un excellent confesseur. Il passait jusqu'à 17 heures par jour au confessionnal. Et puis enfin, vous l'avez dit, Roberto Reinhardt, Padre Pio a bénéficié de phénomènes mystiques particuliers, le don de bilocation, les stigmates, des rencontres avec les anges, des miracles. On ne peut pas dire que ce soit un saint ordinaire. Et pourtant, nous a dit Gino Testa, Padre Pio était pétri d'humilité. François Brunato, j'aimerais bien que vous nous disiez quel a été le lien entre votre père et Padre Pio, puisqu'il y a eu une amitié qui a quand même duré un certain nombre d'années.
Oui, alors, de toute manière, cette amitié a duré toute la vie de mon père, en tout cas. Maintenant, elle a démarré, alors je ne sais pas si d'où vous voulez que je reparte, à peu près du début. Alors, pour que les auditeurs comprennent, il y a un petit peu un décalage de génération. Il faut savoir que mon père m'a eu à 71 ans. Donc, mon père est finalement été le cadet de Padre Pio de 5 ans, hein, 1892. J'ai bien dit 1892. Oui. Donc il va rencontrer Padre Pio dans les débuts des années 20, parce que finalement, mon père a eu 40 métiers différents. Un homme plutôt énergique et avec quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui est assez un certain charisme. Roberto, on parlera peut-être mieux que moi tout à l'heure parce que moi j'ai un peu de difficulté à en parler plus à fond. Mais bref, 1920, il va lire dans un journal de Naples. C'est le premier article qui est sorti sur Padre Pio. Donc, il voit cet article qui parle d'un saint au stigmate. Et mon père dit, il faut que j'y aille. Et là, à cette époque-là, il a plus un centime en poche. Il va vider les dernières, ses fonds de poche. Il va prendre un train, il va partir pour San Giovanni. Petit détail, d'ailleurs, qui est intéressant, que mon père raconte dans ses mémoires, mais finalement, il va se tromper de gare. Et donc, il va pas avoir de bus pour aller jusqu'à San Giovanni, parce que c'est quand même, enfin, il faut s'imaginer pour vos auditeurs, c'est le mont Gargano. Donc, le Gargano, il y a quand même, je crois que c'est à peu près 700 mètres d'altitude. J'ai plus en mémoire si c'est 500, 700 mètres. Mais il faut y grimper, hein. Le Gargano, ça se monte. Et c'était une terre très aride. Et mon père va arriver, donc, il va faire les 40 derniers kilomètres à pied. Et il raconte un peu ce chemin de nuit entre la gare et San Giovanni. Mais c'est aussi toute cette approche du Padre Pio,
ouais, vous savez, qui
attire les gens à lui. Le père de Robert l'a bien raconté aussi. Il a ses petites manières d'attirer les gens à lui, le Padre Pio. Mais c'est sûr qu'on pourrait revenir avec cette question du premier mot, d'ailleurs, qu'a dit Gino tout à l'heure, la partie humilité. Ouais. Mais le Padre Pio a tendance à nous apprendre l'humilité. Et de grimper justement, et mon père va avoir cette humilité d'aller, de faire ces 40 kilomètres jusqu'à à pied, n'est-ce pas, pour aller découvrir le Padre Pio.
Par ses stigmates aussi, par ses messes qu'il mettait parfois 4 heures à célébrer, Padre Pio dérangeait, et à l'âge de 33 ans, il n'a plus eu le droit de célébrer la messe en public, et votre père, François Brunato, a été le voisin de cellule de Padre Pio, il l'avait choisi comme père spirituel. Quel a été précisément son rôle dans les persécution dont Padre Pio a fait l'objet?
Alors, si vous permettez, deux mots pour introduire ma réponse. C'est vrai que mon père donc va rencontrer ce Padre Pio. Finalement, il va passer plus de 5 ans au total à San Giovanni. Et un jour qu'il était effectivement, il est avec les frères. Donc en tant que laïc, on parle d'un couvent de 5 personnes et d'un couvent qui se trouvait à plus de 2 km de la ville. Hein, donc c'était un couvent au milieu de nulle part. Toujours dans la partie introductive, qu'on comprenne bien aussi, la première rencontre qui a eu lieu entre mon père et Padre Pio, c'est d'abord, il a été au confessionnal. Voilà, il a le Padre Pio l'a remis dans le droit chemin.
Il a été retourné.
Voilà. Et par contre, un soir, mon père raconte qu'il se chauffait autour avec les moines au coin du feu. Et le Padre Pio va dire au père gardien, Emmanuel, donc mon père va être malade. Il va être alité pendant 15 jours. Sois gentil de préparer la cellule qui est à côté de la mienne parce que, voilà, il va se joindre à nous. Donc, il est resté comme ça 3 ans. comme en tant que laïc, hein, aux côtés de Padre Pio, il va être son, effectivement, vous parliez de la messe, donc son servant de messe un peu attitré, son celui qui va l'aider. Enfin, il était voilà, il est passé partout comme maître d'école. Il a refait des fresques. Il a été celui qui que le Padre Pio a demandé de construire le même le couvent de Pietrelcina. Donc, il va être le celui qui va diriger les travaux de Pietrelcina. Et même la première maison qui est à côté du couvent, ce qui est celle de Maria Paille. Maintenant, pardon pour cette petite introduction,
oui, mais c'est intéressant. Pour bien comment il a défendu Padre Pio, voilà.
Voilà, parce que et du coup, finalement, ce qui va se passer, c'est que quand arrivent les premiers décrets du Saint-Office, effectivement, déjà, on va demander à mon père de quitter le couvent. Et donc à ce moment-là, il va habiter en ville, et puis il viendra chaque jour, d'ailleurs pour la messe, continuer à servir cette messe de Padre Pio. Et quand ensuite le Padre Pio ne pourra plus confesser, alors les messes non plus, il va être aussi son servant de messe attitré. Avec la, je permettez-moi juste une petite remise en perspective aussi. Le Padre Pio, en gros, une messe de Padre Pio, c'était en gros 2 heures. Hein, parce qu'on dit de longues heures, mais en vérité, que mon père a raconté, mais là, c'était dans des messes qui étaient dites, c'est-à-dire que dans cette partie de restriction, le Padre Pio disait sa messe à l'intérieur du couvent dans une petite chapelle, et mon père devait rentrer avec lui et avait comme ordre de fermer la porte derrière eux.
Ah oui, pas de public.
Et là, mon père raconte que la messe durait toute la matinée. Alors, il faut savoir que la messe du Padre Pio, en gros, commençait à 5 heures le matin. Voilà, donc en vérité, vous dites 4 heures, mais on est plus près des 7 heures que des 4 heures.
Ah oui, c'est ça. Ouais.
Donc, mais ça veut dire que c'est, on parlait tout à l'heure de la partie sacrificielle de la messe. Ça veut dire que le Padre Pio aussi, c'est pas, s'il avait les stigmates, c'est parce que aussi, et quand il l'a raconté, hein, le Padre Pio, qu'il revivait finalement le Golgotha avec le Christ. Donc c'est cette partie-là. Mais ces longues heures de messe n'avaient lieu vraiment qu'en privé. Et pas en public.
D'accord.
Alors, j'ai peut-être oublié une partie de votre question.
Alors, oui, mais le temps file et j'aimerais quand même donner la parole à Roberto Reinhardt à propos des groupes de prière, parce que c'est Padre Pio qui les a souhaités. Qu'est-ce qu'on y vit dans ces groupes de prière?
Alors, effectivement, c'est suite à un appel du pape Pie XII lors du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale qui appelait à prier pour la paix. Padre Pio va lancer ses groupes de prière. Il va appeler ses filles et fils spirituels à se joindre à lui, ainsi que les fidèles. Et là, donc, nous avons l'amorce des premiers groupes de prière Padre Pio. Ces groupes de prière vont très vite essaimer en Italie et à l'étranger, en Europe, dans le reste du monde. Aujourd'hui, il y en a 3000. Alors, leur mode de fonctionnement est relativement homogène, qui est fixé par des statuts. Ces statuts assurent la reconnaissance des groupes puisqu'ils sont validés, ils ont été validés par le Saint-Siège. Je crois qu'ils datent de mai 86. Et donc, il y a une structure au-dessus des groupes supra qui est le Centre international des groupes de prière dont le siège est la Casa Sollievo della Sofferenza. Qui assure un rôle de suivi des groupes, des activités des groupes, qui peut fournir un support matériel. Au niveau de chaque groupe, c'est prévu par les statuts. Il y a une réunion mensuelle qui est prévue avec la nomination d'un prêtre qui doit exercer le rôle de guide spirituel de groupe pour assurer le lien avec l'Église, une certaine cohérence.
Et aussi, on retrouve bien la sagesse de Padre Pio avec cette obéissance à l'Église.
Oui, hein. C'est ouais. Ça, tout à fait. Et aussi, il voulait que ce soit des espaces de formation, d'enseignement à la foi chrétienne. Et donc, la vie de Padre Pio, on peut dire qu'elle était structurée autour de 4 piliers. Il y avait la messe. C'était l'homme de la messe, hein, Padre Pio, on vient d'en parler.
Oui.
Il y avait la prière, hein, jusqu'à 34 ou 35 chapelets par jour, pas moins.
Que disait Padre Pio?
Que disait
Padre
Pio?
Ce n'est pas l'objet de vos groupes de prière,
tout
vous
à
en
fait.
Dites un.
Oui, tout à fait.
C'est pas mal.
La charité. Et donc, dans les groupes de prière, on reproduit quelque part les principes spirituels posés par Padre Pio viennent irriguer le fonctionnement des groupes de prière. Et donc, on se retrouve pour la messe, bien sûr, avec la possibilité de demander le sacrement du pardon. Il y a aussi le chapelet avec les méditations de Padre Pio. Et puis, en même temps, c'est l'occasion de partager un bon moment de convivialité.
Bien sûr.
Donc voilà, on a nos réunions mensuelles à la chapelle Saint-Jean-Baptiste à Toulouse.
D'accord. François Brunato, pour terminer malheureusement déjà cette émission, votre père, Emmanuel, parce qu'il est français, pas Emmanuelé, a donc défendu Padre Pio. Et comment ça s'est terminé finalement, cette relation?
Mais alors, mon père est italien, parce que
mon père est né
effectivement à Turin, mais oui. Effectivement à partir de 1930, il va vivre en France,
voilà,
enfin, majoritairement en France, même s'il avait son bureau après. Comment ça va se terminer? Est-ce que la question, bon, mon père a effectivement pris sa défense, mais comme un fils qui va défendre son père, parce que finalement, on écrit beaucoup de choses et beaucoup de choses inexactes. La seule défense que va faire mon père, c'est de dire. J'irai à ces personnes qui sont des personnes qui étaient dans l'église à l'époque et qui n'étaient pas des modèles du genre, de dire simple, rendez-lui la liberté, c'est-à-dire liberté de confesser et de dire la messe. Bon, pour ça, il y aura plusieurs ouvrages. Il y aura d'abord Lettre à l'église, il y aura ensuite Les Antéchrists dans l'église, c'est vraiment ce qui va libérer le Padre Pio en 1933. Et ensuite, effectivement, mon père va reprendre du service, et là, c'est, je dirais, plutôt dans les années 60, puisqu'il y a des nouvelles persécutions qui sont venues auprès du Padre Pio, et concernant aussi toutes les parties financières, puisqu'il y avait énormément de dons qui étaient faits, et voilà, l'argent appelle aussi les vautours. Donc, mon père est retourné sur ce terrain-là, et a écrit un livre qui est connu comme le Livre Blanc, qui est connu sous le nom de Livre Blanc, et qui va être son dernier livre pour la défense de Padre Pio. Je dois quand même préciser à vos auditeurs que seuls ces exemplaires de livres, qui ne les cherchent pas dans le commerce, il faudrait aller dans les archives vaticanes pour aller les trouver.
Ah oui, ils ne sont plus publiés.
Mais comment ça se termine? Ça se termine très simplement le 10 février 1965 par l'empoisonnement de mon père, et donc voilà comment se termine l'histoire.
Oui, en tout cas, Pardon ?
Je pense que le Padre Pio, mon père raconte une bilocation de Padre Pio avec lui quand il était à Paris. Et le Padre Pio lui a demandé est-ce qu'il voulait donner sa vie, justement, contre ceux qui mettraient à bas les tabernacles. Donc, mon père a donné sa vie aussi pour ça. C'est-à-dire qu'il a, voilà, le combat et le combat jusqu'au bout. On parlait de la vérité, c'est ce qui est marqué sur sa tombe aujourd'hui. Voilà, parce que la vérité vous rendra libre.
Exactement. Et je rappelle, François Renato, la conférence que vous allez donner donc sur Saint Padre Pio le 4 octobre à 14h à la chapelle Saint-Jean-Baptiste à Toulouse. Je vous remercie en tout cas d'avoir témoigné du rayonnement de Saint Padre Pio. Je remercie Gino Testa aussi d'avoir apporté son témoignage. Et donc rendez-vous pour ceux qui le souhaitent le 4 octobre. Et puis évidemment, on peut retrouver des conférences que vous avez déjà données, François Renato, pour ceux qui ne pourraient pas être là, qui racontent le lien entre votre père Emmanuel et Saint Padre Pio. Merci à vous, François Brunato. Merci aussi à vous, Roberto Reinhardt.
Merci à vous, Radio Présence.
Merci pour votre invitation.
C'était Vivante Église, votre émission quotidienne de la vie chrétienne en Occitanie.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.